Puis, comme si la réserve distraite de M. Job eût vaincu sa défiance, il dit tout à coup, mais sans tourner la tête, « Avez-vous rencontré Virginie ces derniers jours, docteur ?»«
Oui. »«
Quand ?»«
La semaine passée. » »«
Et... répondez-moi franchement, car c'est un souci qui me ronge depuis je ne sais combien de temps. Ne l'avez-vous pas trouvée changée ?»«
Certainement, » dit M. Job sans la moindre hésitation.
« L'avez-vous questionnée ?» reprit le jeune homme. « À moi, elle ne veut rien dire. Elle prétend qu'elle mange, qu'elle dort et qu'elle se porte comme à l'ordinaire. Mais elle a les yeux cernés et cette terrible tache rouge au milieu des joues. Elle ne chante plus à son ouvrage. L'autre soir, elle avait pleuré et quand j'ai voulu en savoir la raison, elle a tressailli comme si elle avait peur de moi.
« Soyez très doux pour elle, » dit M. Job d'un ton pensif.
« J'essaie. » Ce n'est pas ma nature, mais j'essaie. » Il y eut un silence que M. Job ne voulait pas rompre le premier, car sa discrétion avait déjà fait ce qu'un interrogatoire en règle n'eût pas obtenu.
« L'avez-vous questionné ?» répéta Ferdinand au bout de quelques minutes.
« Non, je n'ai pas l'habitude d'offrir des consultations. » « Mais si elle ne dit rien à personne, si elle cache son mal et ne prend point de remède, c'est donc qu'elle veut se laisser mourir ?» s'écria le jeune homme avec une sorte de désespoir. « Elle est déjà blanche et fragile comme un flocon de neige. Sa mère est morte de la poitrine, » ajouta-t-il à voix basse. « Par moments, je me dis que Virginie se sent le même mal et que c'est ce qui la rend si triste. Là, docteur, je ne sais pas comment vous vous y êtes pris, mais vous m'avez fait parler. Ainsi, je puis tout aussi bien vous dire mon affaire jusqu'au bout. Vous voyez ce petit sapin ?»«
Prenez garde, » interrompit M. Job, avec une gravité un peu moqueuse. « C'est votre secret et je ne vous le demande pas. »«
Mais je vous prie de m'écouter pourtant, » s'écria le jeune homme. « On vient de tous les coins du pays vous trouver et chacun vous raconte ses misères. C'est bien le moins que vous me donniez, à moi aussi, 2 minutes d'attention. »
M. Job sourit.
« Allez toujours, » dit-il.
« Eh bien, vous saurez que lorsque j'étais un petit bout de garçon haut comme ça, et Virginie une petite femme de 10 ans, elle a toujours eu l'air d'une petite femme avec ses airs sérieux. Ce coin de pâture où nous sommes appartenait à mon père. Un jour, en nous amusant, nous y avions planté 2 sapinets, Virginie et moi, tout près l'un de l'autre, comme des jumeaux. Un peu plus tard, la vieille Céline Ducret acheta de mon père cette bande de terrain. Ça a été un crève-cœur pour Virginie à cause de notre plantation. Mais c'est égal, comme les pâtures ne sont jamais à banc, sauf la vôtre, monsieur Job, soit dit sans reproche, je venais de temps en temps jeter un coup d'œil à nos sapins, qui croissaient tant qu'ils pouvaient. L'année passée, c'était au mois de juin, nous marchions dans le sentier par un beau soir, Virginie et moi, un de ces soirs clairs, vous savez, où tout est si tranquille qu'on parle bas sans savoir pourquoi. Et je me disais que Virginie ressemblait à une nuit de printemps. Vous ne comprenez pas, docteur, je ne sais trop comment vous l'expliquer plus clairement.
« Si, si, je comprends, » interrompit M. Job. « Allez toujours, Ferdi, mon garçon. » Nous n'étions pas encore fiancés. J'étais décidé à lui parler ce soir-là, et pourtant je n'osais pas. Mais voilà, comme nous passions devant la barrière de votre pâture, Virginie s'arrête et me dit « Regarde donc nos sapins, comme ils se tiennent près l'un de l'autre. On dirait qu'ils s'aiment, Ferdi. » Et moi, je lui réponds, le jeune homme s'interrompit et resta songeur un instant, comme s'il repassait en lui-même les souvenirs de cette soirée mémorable.
« C'est ainsi que ça s'est fait, » reprit-il en sortant de sa rêverie.
M. Job n'en demanda pas davantage. Cependant, l'énigme du sapin déraciné n'avait pas encore de solution. Le médecin regardait la petite pioche d'un air intrigué, mais il ne voulait pas faire de questions. « Après ça, » continua le jeune homme, « vous comprenez que nous tenions plus que jamais à nos 2 petits sapins. L'un s'avisa de pousser plus long que l'autre. Virginie l'appela Ferdi, et moi, naturellement, je donnais à l'autre le nom de Virginie. C'était le plus joli, droit comme un cierge, et tout vert de jeunes pousses tendres. mais cette affreuse vache noire qui vous appartient, cornette ou cornichon, une sotte bête en tout cas, n'a rien trouvé de mieux à faire que de venir brouter le sommet de notre pauvre petit arbre, de sorte que c'est fini de lui, il séchera. Et juste au moment où Virginie pâlit et maigrit, sans qu'on sache pourquoi. Quand j'ai découvert l'autre jour ce bel exploit de votre animal de vache, je me suis dit qu'il y fallait un remède au plus tôt. Les jeunes filles croient au présage, vous savez. Il ne faut pas que Virginie se frappe l'imagination en trouvant son petit sapin si malade. C'est pourquoi j'en ai déniché un tout pareil dans notre pâture et j'étais en train de le transplanter. En savez-vous assez long, monsieur Job ? Celui-ci ne répondit rien. Toujours adossé au mur, il regarda le jeune homme reprendre son ouvrage, qui fut achevé en quelques minutes. Le sapin substitut était là debout, le pied bien entouré de mousse fraîche, étendant ses branches jusqu'à toucher son voisin, le sapin ferdit, comme pour lui souhaiter le bonjour. « En règle, fit le jeune homme d'un ton joyeux, voilà ce que j'appelle un bon raccommodage. » Et si ma mère voulait traiter mes habits suivant cette méthode, une blouse neuve quand l'autre a des trous, ça m'irait, je ne dis que ça. Très bien, répliqua M. Job en secouant la tête. Mais vous ne pensez pas que ce joli sapin tout battant neuf aille raccommoder la santé ou la gaieté de Virginie ? Non, sans doute, mais... Il avait un peu cru, pourtant, il y avait mis tant de cœur et d'entrain. Maintenant, il se sentait presque déconcerté. Écoutez, dit le docteur avec sympathie, voulez-vous que je vous aide ? J'ai plus d'expérience que vous. Je ne suis pas amoureux, ce qui aide joliment à y voir clair. Et puis, mon métier est de guérir. Cette proposition bienveillante ne fut pas acceptée avec beaucoup d'élan. Merci, dit le jeune homme d'un ton embarrassé. Vous êtes bien obligeant, monsieur Job. Vous faites des cures magnifiques aussi, chacun sait ça. Seulement... Ah, je comprends, fit le médecin d'un ton où il y avait autant d'ironie que de tristesse. Vous craignez que je ne mette un peu de diablerie dans mes ordonnances. Comme vous voudrez, portez-vous bien. Et il lui tourna le dos. Il allait franchir le mur et rentrer chez lui quand Ferdinand le retint par un mouvement précipité. « Ne partez donc pas ainsi, nom d'un !»« Ne jurez pas !» interrompit M. Job. « Si vous jurez, je ne reste pas ici une seconde de plus. »« Excusez-moi, ça m'a échappé. Mais dites donc, pourquoi voulez-vous qu'on parle toujours comme au catéchisme ? Vous n'êtes pas méthodiste, vous n'êtes pas régent, vous savez fumer une pipe et même donner un coup de poing à l'occasion. » Mais jamais on ne vous entend jurer. Est-ce qu'on vous élève comme ça, tout petit, chez vous, à la montagne des bois ? Monsieur Job était devenu très grave. « Mon père, dit-il en fixant sur son interlocuteur un regard sérieux, mon père fut tué par un coup de foudre à l'instant même où il venait de prononcer un terrible jurement. J'étais non loin de lui, dans les bois, pendant cet orage. Je venais de l'entendre jurer et je le vis tomber. » Vous comprenez maintenant ? Le jeune homme resta un moment silencieux. Eh bien, dit-il enfin, je voudrais avoir la permission de répéter ça à une douzaine de gaillards qui en auraient besoin comme. Vous savez, monsieur Job, on est ainsi fait, ce qu'on ne peut pas comprendre, on l'explique à mal. Monsieur Job inclina la tête affirmativement. Il avait assez vécu pour savoir cela. « Ce que c'est pourtant que de naître dans un siècle éclairé, dit-il avec ironie. Il y a 100 ans, on brûlait les blasphémateurs. Aujourd'hui, on en ferait volontiers autant à ceux qui ne blasphèment pas. Mais continuez, jeune homme, votre conversation est des plus intéressantes. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque autre accusation aussi ingénieuse dont je pourrais essayer de me blanchir, par hasard ?»« N'ayez pas peur, ce n'est pas ce qui manque, » répliqua Ferdinand, que l'ironie du médecin commençait à échauffer un peu. « Je le sais, » dit M. Job. « Je le sais, » répéta-t-il lentement et comme réprimant un soupir. « Nous autres, qui piochons à la sueur de notre visage dans le grand champ où les humbles, aussi bien que les illustres, peuvent faire des découvertes, c'est à la science pure que nous nous dévouons, au soulagement de l'humanité en masse. » Nous le disons nous-mêmes et nous attendons notre récompense de l'avenir. Mais de temps en temps, quelque chose de moins abstrait, un peu d'affection, un peu de reconnaissance ferait du bien.
Le médecin semblait se parler à lui-même, comme si un sentiment longtemps muet fût tout à coup monté à ses lèvres sans qu'il y prît garde. « Docteur, s'écria le jeune homme, oubliant ses défiances dans un élan de sympathie, si je vous ai blessé, je vous demande pardon. Vous êtes un brave homme, et moi je suis... Ma foi, je suis un fiernigot. Mais si on fait beaucoup de comptes sur vous, monsieur Job, il faut avouer que vous en fournissez l'étoffe, et bonne mesure encore. Tenez, je vais vous dire, pourquoi toutes vos bêtes sont-elles noires ? Votre chat est noir, votre chien aussi, votre vache de même, et votre corbeau, c'est clair qu'il n'est pas blanc. D'ailleurs, même s'il l'était, ça ne ferait que le rendre plus suspect. » Le médecin se mit à rire. « La coïncidence est en effet remarquable, dit-il. Je n'ai rien à répondre. Le chat était à ma marraine. Je vais le teindre dès demain. Quant à Gribouille, il le prendrait en mauvaise part. C'est un chien qui a des idées très particulières sur sa dignité personnelle. Et le pauvre Alexandre, qu'en ferons-nous ? Comme vous dites, un changement de couleur augmenterait ses chances d'être lapidé ou brûlé vif. C'était un pensionnaire de ma marraine aussi. Elle avait bien des bêtes noires autour d'elle, sans compter celles à deux pattes et sans plumes. J'ai hérité de la ménagerie en bloc. » Ferdinand se mit à rire aussi. « J'en connais une de vos bêtes noires, » dit-il. « Qui donc ?»« Le vieux Piquet. »« Touché, » dit M. Job, « mais n'en parlons pas. »« Moi, je ne l'aime pas trop non plus, » poursuivit Ferdinand. « Il a contre moi une dent qui remonte à des années et des années, du temps où son garçon et moi, nous nous donnions des coups de poing à raison de 30 par jour. Mais Arthur Piquet était un capon. Il frappait par derrière et puis il se sauvait. » Il s'est avisé dans le temps de faire le gracieux autour de Virginie, mais ça n'a pas duré. » Et tout d'un coup, après une pause, Ferdinand reprit. « Docteur, si vous voulez voir Virginie et découvrir son mal, j'ai toute confiance en vous. » C'était une réparation à laquelle M. Job ne fut pas insensible. « Très bien, mon garçon, répondit-il, donnons-nous la main comme une paire d'honnêtes gens. « Je souhaite que votre petit sapin reprenne et que ce soit un bon présage pour vous et votre fiancé. Chacun a ses affaires maintenant. Bonsoir. » Et M. Job se dirigea vers la forêt, suivi de Gribouille, tandis que Ferdinand Lardy, sa pioche sur l'épaule, s'en allait de son côté. Le médecin souriait en reprenant sa promenade solitaire, car la pensée d'une bonne œuvre à accomplir venait de l'aborder pour lui tenir compagnie. Depuis longtemps, sa propre vie avait cessé de l'intéresser. Il vivait dans les autres, possédant à un rare degré le don peu commun de faire abstraction de sa personne. Mais, comme il ne proclamait pas son dévouement à son de trompe, comme il négligeait de souligner ses bonnes actions, elle restait la plupart du temps ignorée. Ceux même à qui elle profitait les acceptaient trop simplement, comme si le temps, les conseils et parfois la bourse du docteur eussent été propriété commune. Mais cet humble médecin de campagne, cet ouvrier obscur qui travaillait seul et sans bruit, avait, pendant sa carrière, expérimenté bien des vérités consolantes. Il savait qu'un acte de charité ne reste jamais absolument infécond, quoique ses résultats bénis soient parfois aussi insaisissables à notre vue que les vibrations de l'air frappées par un son. Le pain qu'il se met ainsi à la surface des eaux, il savait qu'il le retrouverait un jour, et cette certitude lui aidait à se passer de reconnaissance. « Eh bien, Gribouille, que penses-tu de cette affaire ? Voyons, mon vieux !» fit M. Job en s'asseyant d'un air méditatif au coin du foyer, sous la haute cheminée ouverte, d'où descendait un souffle d'air frais, avec des cris joyeux d'hirondelles. « Si ton camarade Fricot était ici, nous assemblerions un conseil de famille. » Mais il court toujours après les souris, le goulu. Nous ferons comme nous pourrons sans lui, n'est-ce pas, Gribouille ? Voici notre grave Alexandre avec ses airs d'homme politique en retraite. Il complétera notre triumvirat. Monsieur Job étendit la main et l'oiseau solennel se mit à gravir jusqu'à l'épaule de son maître d'un air aussi pompeux que s'il eût monté au Capitole. Parfaitement, dit le premier triumvir en reprenant son monologue. « Considérons un peu le cas. Vous ne croyez pas, et moi non plus, que Virginie soit poitrinaire. Elle a l'air frêle, à la vérité, c'est une jolie fleur qui ne demande que du soleil et de la tendresse. Ce changement qui inquiète tant son fiancé, et que j'ai bien remarqué moi-même, ces lignes noires sous les yeux, cet air de langueur, ce n'est pas la maladie, c'est un chagrin caché. J'en ai assez vu de ces tristesses qui tâchent de sourire, pour m'y connaître maintenant. Pauvre Virginie, Ferdi n'a pas la main légère, moralement parlant. Sans le vouloir, il aura blessé cette petite. Je tâcherai de découvrir où est son mal et d'y mettre un peu du précieux baume de paix. N'est-ce pas votre avis, Alexandre et Gribouille ? Ces deux membres du triumvirat, ayant acquiescé par un parfait silence, avec une unanimité bien rare dans les assemblées délibérantes, le conseil fut déclaré dissous sur cette résolution. Il était 5 heures. Le journalier qui vaquait pour M. Job aux soins de son petit domaine entra dans la cuisine, portant un de ces grands vases de bois appelés maîtres, plein d'un lait écumeux qu'il venait de traire. « Déjà l'heure du souper, » fit M. Job. « Je ne sais comment ça va, mais tous les repas se touchent aujourd'hui. Je vais frire des pommes de terre, ça te convient, Gribouille ? Et pendant que l'eau chauffe pour notre café, j'aurai le temps d'assortir mes tisanes. » Ayant donc mis ses casseroles sur le foyer et allumé un fagot, M. Job vida sur la grande table de sapin le contenu de plusieurs sacs de papier, un tas de racines flétries, de fleurs de tussilage jaune et d'autres plantes médicinales qu'il se mit à trier avec le plus grand soin, laissant à la grâce du feu ses préparatifs culinaires. Par l'effet d'un hasard compatissant, les pommes de terre ne furent pas réduites en cendres, mais seulement frites au point de passer à l'état fossile. M. Job les avait coupées en petits bâtonnets d'aspect fort réjouissant. Mais le premier que toucha la fourchette était si dur qu'il sauta droit au plafond. « Attrape !» dit M. Job. Et Gribouille reçut dans sa gueule le fugitif au moment où celui-ci redescendait de son excursion dans les hauteurs. Le chien avait de bonnes dents. Il croqua toute la friture avec délice, tandis que son maître se contentait de pain et de fromage. Du reste, il avalait son repas d'une façon si distraite, triant ses plantes entre deux bouchées, qu'un menu plus délicat eût pu se substituer à sa frugale pitance sans qu'il s'en aperçût. Le soleil baissait rapidement. Une lumière empourprée commençait à se glisser dans la vaste cuisine dont l'étroite fenêtre regardait le couchant. « Très bien, » dit M. Job en tirant sa montre. « Si je me dépêche, j'aurai fini ma tâche avant la nuit. » Sa récréation favorite était une promenade à l'heure du crépuscule, le seul plaisir qu'il s'accorda après sa journée si remplie. Quand le vent du soir passe à grands coups d'aile parmi les sapins, secouant leurs branches pour en faire sortir une fraîche senteur forestière, il fait bon s'arrêter au milieu du sentier et livrer son front à ce souffle qui vient de si loin et qui pourtant n'est jamais là. « Cela restaure, » dit le docteur en sortant de sa maison, son chapeau de paille à la main. Il se sentait fatigué parfois. Il avait dépassé la cinquantaine et bien que son énergie naturelle le soutînt du matin au soir, il se disait souvent « Ce n'est plus moi qui porte la vie, c'est la vie qui me porte. » Il s'avança lentement dans le chemin désert qui reliait son domaine à un groupe de maisons situées plus haut sur la pente de la montagne, presque à la lisière du bois. Les grives s'appelaient en roulades perlées tout le long de la forêt. Aucun autre bruit ne troublait la sereine tranquillité de ce beau soir. De chaque côté du sentier, les prairies étendaient ce vert printanier qui dure si peu et auquel succède trop tôt l'invasion des fleurs jaunes. Pour le moment, tout était vert encore, de ce vert profond, moelleux, doux à l'œil, sur lequel la lumière du couchant jette des reflets veloutés. Une légère vapeur blanche, montant doucement, indiquait seule la vallée qu'on n'apercevait pas. Peu à peu, les montagnes de la chaîne opposée se revêtaient de tons d'un bleu froid, mais le ciel était encore plein de lumière. Le couchant sans nuages avait une transparence cristalline et ses teintes, dont la finesse exquise ravit les yeux, ce bleu léger, ce vert pour ainsi dire liquide, qui se fondent insensiblement dans les derniers rayons, flottant encore tout au bout de l'horizon. Le médecin jouissait silencieusement de cette heure charmante, la perle des heures, où la lumière est une caresse, le moindre souffle une harmonie douce et subtile qui parle de paix. À 100 pas de la maison, le sentier s'enfonçait tout à coup dans un vallon fort serré, à peine plus large qu'une fissure, encombré de saules nains et de tussilages aux larges feuilles sous lesquels une source se glissait en gazouillant. C'était un endroit frais et fort solitaire, d'où l'on avait une jolie échappée dans la vallée principale. Gribouille s'élança sur la pente avec enthousiasme, espérant sans doute rencontrer au fond du ravin une troupe de canards, ses ennemis intimes, auxquels il causait presque chaque jour des frayeurs mortelles. Mais il était trop tard, la famille dandinante avait regagné son domicile. Tout à coup, le chien s'arrêta, dressa les oreilles et se mit à aboyer. La rame étouffue qui bordait le ruisseau s'agita avec un bruissement de feuilles froissées et une jeune fille parut dans le chemin. Son chapeau de paille pendait sur ses épaules. De ses deux mains, elle rajustait sa chevelure blonde que le frôlement des branches avait dérangée. Son visage était remarquable par une grande blancheur, peu commune à la campagne, et par une expression très douce et un peu timide. Sa taille mince et pliante, légèrement inclinée en avant, semblait chercher l'appui d'un bras vigoureux, et elle l'avait trouvé, car cette enfant blonde et blanche était Virginie Duval, la fiancée de Ferdinand Lardy. « Bonsoir, monsieur Job, » fit-elle sans lever les yeux et d'un air troublé. « Bonsoir, Virginie. Ne marchez pas dans la rosée. Le chemin est assez large pour deux, j'imagine. » Elle avança d'un pas, puis s'arrêta, indécise. « Nous n'allons pas du même côté, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis pressée. » Monsieur Job la considéra attentivement. Bien qu'elle s'efforçât de se contenir, la jeune fille paraissait vivement agitée. Ses lèvres pâles, pressées l'une contre l'autre, avaient un tressaillement nerveux et ses mains chiffonnaient convulsivement un coin de tablier. « Virginie, dit le docteur de sa voix grave, vous n'êtes pas bien, mon enfant, ne courez pas si vite. Asseyez-vous ici et reposez-vous une minute. » Il lui indiquait une grosse pierre moussue qui avait roulé du mur et formait un siège commode au bord du chemin. « Merci !» murmura la jeune fille, heureuse d'obéir, car il semblait qu'elle fût à bout de force. Elle et M. Job tournaient maintenant le dos au petit vallon. « Ne vous arrêtez pas pour moi !» dit Virginie du même air de précipitation troublée. « Je n'ai besoin de rien. Je vais me reposer ici un moment, et puis je retournerai à la maison. »« Vous préférez que je vous laisse ?» demanda doucement M. Job. « Oui, oh oui !» C'est-à-dire... En ce moment, Gribouille aboya de nouveau et son maître tourna la tête. Sur la berge opposée, un homme émergeait des broussailles et se préparait à gravir la côte. Mais, se voyant observé, il passa rapidement derrière le rideau de saules qui bordait le ruisseau et disparut. Monsieur Job avait le coup d'œil prompt. « C'est Arthur Piquet, » dit-il en se tournant vers la jeune fille. Mais il vit tout à coup une rougeur brûlante couvrir ses joues, son front et jusqu'à son cou blanc. Il eut pitié d'elle et se détourna pour lui donner le temps de se remettre. Cependant, il fronçait le sourcil. Un soupçon indigné le retenait là, droit et grave comme un juge. « Ferdinand Lardy en vaut 50 de cette espèce » fit-il tout à coup en indiquant avec un geste de mépris l'endroit où l'homme avait disparu. On eût dit que la jeune fille avait suivi le cours des pensées du médecin, car elle ne marqua aucune surprise, mais baissa la tête en murmurant « Je le sais, oh, je le sais !» Puis, tout à coup, comme incapable de se contenir plus longtemps, « Et c'est pourquoi je suis si malheureuse » s'écria-t-elle. Elle avait enlacé de son bras le tronc du jeune arbre contre lequel elle s'appuyait et, pressant sa joue brûlante contre l'écorce lisse et fraîche, elle laissa couler ses larmes lentement, sans grand sanglot, mais avec cet air d'absolu découragement. Le docteur la regardait d'un œil scrutateur. « Puis-je vous aider ? » dit-il simplement. Virginie fut lente à répondre. « Peut-être, je ne sais pas. » murmura-t-elle en levant vers lui des yeux pleins de supplications, comme pour dire «
Décidez vous-même. J'ignore ce que je veux, je sais seulement que je souffre. Si vous trouviez sur le chemin un pauvre oiseau meurtri, vous ne lui demanderiez pas « Veux-tu que je t'aide ?»
Le médecin comprit probablement sa prière muette, car il dit avec cette fermeté tendre qui fait du bien aux malades et aux enfants « Je suis sûr que je puis vous aider. Venez, Virginie, je vous accompagnerai un bout de chemin et nous causerons. » « J'ai vu Ferdinand aujourd'hui, continua-t-il comme la jeune fille se levait pour le suivre. Il m'a parlé de vous, mon enfant. Vous lui causez bien de l'inquiétude. »
« Je le sais, dit-elle en baissant la tête. Je devrais tout lui dire, mais il ne m'aimerait plus et je n'ai pas le courage. Il est si beau et si bon, mon Ferdi, s'écria-t-elle. J'étais fière d'être sa fiancée, trop fière, car je ne le mérite pas. Il n'a jamais aimé que sa Virginie, lui. Et moi ?
Vous ne voulez pas dire, interrompit le docteur avec une exclamation, que vous aimiez cette espèce de chien rampant qui s'appelle Arthur Piquet ?
Virginie releva la tête et sa timidité disparut pour un instant. Non, répondit-elle avec dignité, je ne l'ai jamais aimé. Seulement, je me suis figuré autrefois que je l'aimais. J'avais 16 ans alors et pas de mère à qui demander conseil.
Elle se tut un instant, puis reprit d'un ton précipité, comme s'il lui tardait d'être au bout de sa confession.
« Il a été le premier à me dire que j'étais jolie et qu'il m'aimait, qu'il ne pouvait vivre sans moi. Il me suppliait d'essayer, au moins, de ne pas le détester. Il parlait bien, peut-être qu'il m'aimait réellement un peu. J'ai eu pitié de lui et j'ai pris cela pour de l'amour. Une fois, il y a 2 ans de cela, il fit une longue absence. » Un de ses oncles, qui habite le bon pays, Lucin sous Montreux, le garda près de 3 mois chez lui, dans sa ferme. Arthur m'envoya des fleurs, des roses magnifiques, et moi, je lui écrivis pour l'en remercier. Ce n'était pas une lettre bien tendre, mais je l'appelais « cher Arthur », et en réponse à un reproche qu'il me faisait de ma froideur, je lui disais « Ne m'appelez pas ingrate et cruelle, je fais de mon mieux pour vous aimer, en tout cas, je n'aime personne d'autre. » C'était vrai, j'admirais Ferdi, mais la pensée d'être un jour sa femme ne m'était jamais venue. Quand Arthur revint, je sentis que décidément je ne pouvais pas le souffrir et je pris tout mon courage pour le lui expliquer. Il se mit dans une colère terrible et jura que Ferdinand Lardy le paierait cher. À la frayeur que j'eus, je reconnus combien Ferdi m'était précieux. Lui m'aimait aussi, il me le dit un soir, et nous nous sommes fiancés. J'aurais dû tout lui avouer, n'est-ce pas? Mais il est si violent, je n'ose pas, non, je n'ose pas. Il me tournera le dos pour ne jamais revenir. Oh, que j'ai été folle! Mon beau Ferdinand était là, qui m'aimait tout le temps sans oser me le dire, et je ne voyais rien, je ne comprenais rien. J'essayais même de m'attacher à un autre. »
« Arthur n'a pas renoncé à vous, toutefois, » dit M. Job, qui devinait d'autres complications.
« Non, il prétend que je lui ai donné ma parole. Depuis le jour de mes fiançailles, il me fait vivre dans des transes mortelles, jurant qu'il va tout raconter à Ferdinand et lui montrer cette lettre, cette malheureuse lettre. Je l'ai supplié de me la rendre, mais il m'a répondu que ce serait son cadeau de noces à mon heureux époux. » L'automne dernier, je n'osais plus sortir, je le rencontrais partout avec ses yeux méchants. Cet hiver, j'ai eu un peu de répit. Il a souffert longtemps d'une entorse qui le retenait à la maison.
Et dont je l'ai guéri, interrompit M. Job. Une jolie cure que j'ai faite là, vraiment.
Ce soir, reprit Virginie, il m'a arrêté dans le sentier, comme je remontais le long du ruisseau, pour me demander une dernière réponse à ce qu'il disait, mais en réalité, pour me voir souffrir encore un peu, le lâche. Il me retenait par la main, car j'essayais de me sauver sans l'entendre, quand votre chien a aboyé. Alors, il a pris peur et il m'a laissé partir.
« Hum !» fit M. Job, ôtant son chapeau comme si la fraîche brise du soir, qui agitait ses cheveux gris, eût pu lui souffler à l'oreille quelques sages conclusions. « Voulez-vous que je vous dise, ma fille ?» Allez de ce pas tout raconter à Ferdinand. Quand on a devant soi une grande route bien droite, pourquoi s'égarer dans les petits sentiers ?
Vous ne prévoyez pas tout, dit Virginie en secouant sa jolie tête blonde. Cette lettre, Ferdinand voudra la voir. il se jettera sur Arthur à la première occasion, tout le monde saura le sujet de la bagarre, et qu'est-ce qu'on dira de moi ? Oh, monsieur Job, montrez-moi ce que je dois faire !»«
Je n'en sais rien, » dit brusquement le docteur. « Je déteste les cachotteries. Le seul moyen d'en sortir, je suppose, est que je vous fasse rendre cette malheureuse épître. » Mais vous allez me promettre, Virginie, qu'à l'instant où je la remettrai entre vos mains, vous raconterez tout à Ferdinand. Puisque c'est un esclandre que vous craignez, il n'aura plus de prétexte. Vous avez raison, peut-être. J'y mettrai de la discrétion, tandis que Ferdinand ferait autant de bruit que pour une traque au loup. Là-dessus, bonsoir, mon enfant. Je souhaite que l'été qui va venir vous mette un peu de rouge aux joues.
« Monsieur Job, » s'écria la jeune fille avec un élan de reconnaissance, « si vous faites ce que vous dites, c'est comme si vous me rendiez la vie, car de chagrin et de tourment, je m'en allais mourir. Ferdinand et moi, nous serons toujours, toujours vos obligés. »«
Toujours, c'est bien long, » dit le médecin avec un sourire un peu triste. Il en avait tant entendu de ses protestations de reconnaissance éternelle. « Allons, ma fille, rentrez chez vous. La rosée tombe, vous prendrez froid. » Puis, surprenant un regard alarmé de Virginie, « Votre maison est trop près, dit-il, pour qu'il vous arrive malheur en chemin. Je resterai ici jusqu'à ce que je vous ai vu rentrer saine et sauve. » Tout en causant, le médecin et sa blonde compagne étaient arrivés à un petit plateau vert à l'extrémité duquel s'élevait une ferme d'apparence cossue.
« Voilà mon père sur le seuil !» s'écria Virginie. « Monsieur Job, ai-je les yeux rouges ?»«
Un peu, mais il fait sombre. »«
Mon père est si sévère » fit-elle à voix basse.
« Poltronne !» exclama Monsieur Job impatienté. « Vous avez peur de tout, Virginie !»«
C'est pourquoi Ferdi m'appelle son petit lapin blanc. Il dit que je tremble toujours, de peur si ce n'est de froid. » Et c'est bien vrai, je suis si, si poltronne.
En même temps, elle levait ses grands yeux doux vers le médecin avec une expression de timidité caressante qui le toucha. Bien, bien, dit-il en souriant. Ferdinand vous aime ainsi, c'est l'essentiel. Et puis, si toutes les femmes étaient des héroïnes, le sexe fort en verrait de grise. Il resta debout au bord du chemin, regardant Virginie s'éloigner d'un pied léger, car elle laissait ses soucis derrière elle. Le médecin, lui, venait de s'en charger. Il reprit sa route d'un air pensif. « Comment vais-je faire ? » se demandait-il en regagnant sa maison où personne ne l'attendait, sinon Alexandre le Grave, perché sur le mur et à moitié endormi, dans une attitude d'ibis égyptien. « Bah, qui veut peu, et demain y pourvoira !» Gribouille eut ce soir-là une conversation très sérieuse avec son maître, opinant du bonnet, ou plutôt de la queue, et subissant toute une série de points d'interrogation avec une patience qu'on chercherait en vain dans plus d'un conseil de ministre. À l'entrée de la vie, conclut M. Job d'un ton rêveur, le menton appuyé sur sa main et regardant de petites étincelles qui se poursuivaient dans les cendres, à l'entrée de la vie, j'entends, au bout des 20 premières années de jeunesse, où l'on ne fait que batifoler, se dresse une grille par où l'on entre dans l'arène. Beaucoup ont de la peine à la franchir. Quelques-uns, au contraire, sautent d'un bond par-dessus et courent ensuite, sans jamais regarder derrière eux. Ceux-là gagnent des honneurs et de l'argent. D'autres s'arrêtent, qui ne tiennent pas aux couronnes, et ils restent là pour tendre une main de bon secours à ceux qui sautent mal. On s'appuie sur eux, on leur met parfois le pied sur l'épaule, on n'a pas toujours le temps de leur dire merci. Cependant, ils tiennent bon à leur poste jusqu'à ce que s'ouvre pour eux une autre grille, celle qui conduit au pays du repos. Mais nous n'en sommes pas là, dit le médecin en se renversant d'un air lassé contre le dossier de sa chaise. Nous n'en sommes pas là, nous avons encore bien de la besogne taillée. Le cœur et la main seront fermes jusqu'au bout, plaise à Dieu.